et nous avons posé le problème des 3 degrés de vie. Rapidement, puisqu'on avait fait des choix l'année dernière. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'entrer dans ce 3e degré de vie. La vie, entre guillemets, spirituelle. Très difficile de trouver un terme adéquat. Parce que pour nous, vie spirituelle, on pense tout de suite à la vie chrétienne. Alors, c'est pas juste. L'esprit se manifeste d'abord dans notre vie d'intelligence et d'amour. Ce 3e degré a ceci de particulier, c'est que il nous indique que l'homme vivant est un vivant qui peut se libérer de la matière. De fait, la vie apparaît toujours comme un dépassement de la matière dans ce qu'elle a de caractéristique. Une matière liée à la quantité qui implique l'extériorité. La vie vient être victorieuse de cette extériorité par une immanence de plus en plus grande. Et les différents degrés de vie se prennent de cette immanence toujours plus forte. Pour ceux qui ont beaucoup de courage, il y a un article dans Saint Thomas extrêmement beau là-dessus, dans le Contra Gentiles, livre 4e, chapitre 11 ou 13. C'est 11. C'est au plan théologique pour montrer la montée jusqu'à la très sainte Trinité. Alors évidemment, ce n'est pas philosophique, mais saint Thomas utilise une pensée philosophique pour nous aider à monter jusqu'à l'immanence la plus parfaite qui soit, la vie de Dieu. La vie tout court, la vie véritable, qui est la vie de Dieu, qui est trinitaire, impliquant une fécondité sans extériorité. Ça, nous pouvons constater que le vivant lutte contre le poids de la matière, qui est un poids de corruptibilité. La matière se corrompt, puisque la matière est capable de devenir. Elle est pure puissance. Et donc il y a un poids vers la potentialité dans la matière. La matière saisit au plan philosophique que la vie vient constamment lutter contre ce poids de corruptibilité. C'est très important de comprendre ces deux mouvements qui sont les deux grands mouvements de notre terre. Je ne dis pas de l'univers, mais de notre terre. À la différence de l'univers. L'univers, la vie n'est peut-être pas présente dans Mars, dans les planètes. Elle est présente dans notre Terre. C'est ce qui fait que la petite Terre, au regard philosophique, est la chose la plus précieuse du monde entier, du monde physique, du cosmos. Elle est l'âme du cosmos. Elle est le cœur du cosmos. Puisque là, il y a la vie. Et dans les autres parties de l'univers, je n'en sais rien. C'est de pures hypothèses. Eh bien, sur notre petite Terre, il y a ce double mouvement constant. Ce mouvement de corruptibilité, on le sait bien. Laisser bien tournée dans le grand tout universel. Et le vilain lutte contre ça. Au fond, il n'y a que le vivant qui est parfaitement individualisé face au tout. Parce que une pierre n'est pas parfaitement individualisée. C'est pour ça que le problème de l'individuation se prend à partir de l'homme. Parmi les vivants, c'est le vivant le plus individualisé qui soit. C'est pour ça qu'il est le roi des animaux. Parce que le roi a le privilège d'être un individu qui a une tête de plus que les autres. Donc parfaitement individualisé. C'est très curieux, ça. Et la vie lutte contre ce poids de corruptibilité. Et la vie reprend toujours tout. Ceci dans la vie végétative, c'est palpable, c'est visible. Ceci est visible dans la vie sensible. Grâce à la vie sensible, j'échappe aux limites de la localisation, aux limites du temps. Il commence à y avoir une durée. Il y a la mémoire. Je peux emmagasiner et garder avec moi, grâce à la vie sensible. La vie sensible peut faire des provisions. Alors que dans l'ordre purement physique, on ne fait pas de provisions. Il n'y a pas de repos dans le monde physique, dans le pur monde physique. Le repos, c'est le vivant. Il peut se reposer parce qu'il peut faire des provisions. Et la vie intellectuelle, ce troisième degré de vie, apparaît avec l'universel. L'universel est le signe d'une vie qui est au-delà du conditionnement du temps et du lieu. L'universel, au niveau générique, au niveau spécifique, universel au niveau des principes, qui est universel analogique, c'est le dépassement à l'égard de ce conditionnement terrible de l'être physique qui est limité au temps et au lieu. Un être spirituel est au-delà de son lieu physique, est au-delà de son temps physique. C'est là les limites de l'histoire et de la géographie. Un être parfaitement spirituel atteint l'universel. Et l'universel est au-delà. La signification d'universel est au-delà. Et ce qui montre très bien que étudier la pensée de quelqu'un uniquement en regardant le point de vue du temps et du lieu, ce n'est pas saisir ce qu'il y a de propre à sa pensée. C'est saisir ce par quoi sa pensée n'est pas ce qui caractérise la pensée. Puisque le propre de cette vie spirituelle, c'est de dépasser les dimensions de temps et de lieu. C'est très important de comprendre ça. Pousser jusqu'au bout en nota bene pour la parole de Dieu. Si déjà la parole humaine est au-delà du conditionnement, de point de vue. Je ne dis pas le langage. C'est pas ça. Je dis l'universel. Parce que le langage, on dira que des singes très perfectionnés bavardent. Ils jasent entre eux. C'est possible. C'est possible, ça ne me gêne pas. Ils gloussent entre eux. Mais ils n'atteignent pas l'universel. Dans la signification de leur rapport, de leur relation. Donc ne disons pas le langage, disons l'universel. La signification universelle. Et la signification universelle, ou deux degrés d'universel, univoque, générique et analogique au niveau des principes. Je vois donc qu'il y a tout de suite des degrés dans ma vie intellectuelle. Ça, je le constate. Et aujourd'hui, si je regarde toute la diversité des sciences, je verrai que ces degrés sont énormes. C'est la tour Eiffel. Avec des paliers différents, différents. Je constate ça. Ça, c'est la constatation, hein, du vivant. Ce vivant a ceci de particulier. C'est qu'il atteint l'universel. Il en a conscience. Votre philosophie n'a pas d'autre but de vous donner conscience que vous êtes capable d'atteindre l'universel. Et le jour où vous avez dit, bon, je comprends, j'atteins l'universel, c'est la philosophie qui commence à pousser. Parce que c'est la réflexion sur votre connaissance intellectuelle qui se distingue de vos sens et de votre imagination. Aristote souligne que les philosophes anciens ont eu beaucoup de peine de distinguer l'intelligence de l'imagination. Que dirait Aristote aujourd'hui? La plupart des philosophes d'aujourd'hui restent dans l'imaginaire et ne distinguent pas l'imaginaire et la pensée. C'est la première chose qu'on doit faire quand vous tâtez le pouls d'un philosophe. Est-ce qu'il distingue la pensée et l'imaginaire? L'imagination demeure dans la représentation du singulier. Tandis que le propre d'une pensée spirituelle, c'est d'atteindre une signification universelle. Le langage implique cette signification universelle. Le langage est symbolique, symbolon. Et ce symbolisme implique quelque chose d'universel dans sa signification et quelque chose de singulier dans son exercice. La parole est singulière et elle est universelle dans sa signification. L'aspect singulier, c'est possible que certains animaux puissent le réaliser. Ils ont des sons, des grognements, de joie, d'exaltation ou de furie. Et l'homme redevient animal à certains moments de sa vie. Quand il est en colère, il grogne. Vous approchez pas de lui, il va mordre. Ou dans les exaltations, il n'y a plus aucune signification. Mais l'homme est capable aussi de parler et dans son langage. Son langage est une signification universelle. Ceci pose tout de suite le problème de ces opérations vitales qui ont quelque chose d'unique, qui domine le conditionnement du lieu et du temps. Il y a quelque chose de particulier dans cette vie qui a une immanence la vie du vivant doit constater. C'est pas commode aujourd'hui, hein. De bien constater qu'il y a un abîme entre les deux. Entre la connaissance sensible, imaginative, de la représentation, et la connaissance impliquant une signification. Tu peux avoir des degrés différents d'universalité. Mais ce qui est sûr, c'est que cette connaissance significative, ayant des degrés différents d'universalité, indique que mon opération vitale est au-delà dans ce qu'elle a de propre, dans son caractère spécifique, dans son caractère original. Elle a quelque chose qui est au-delà de la matière. Deuxième constatation, ça c'est capital. Si vous ne saisissez pas ça, notez vos objections. Ça c'est pour toute votre vie, hein. Considérez pas ça comme simplement une petite notion philosophique. Non, non, c'est capital aujourd'hui. C'est capital de comprendre à quel moment vous pouvez affirmer en face d'un matérialiste que sa philosophie matérialiste n'est pas fidèle à l'expérience. Saisir en premier lieu du côté de la connaissance. Vous pouvez ensuite le saisir par le point de vue de l'amour. Ça, on le verra après. Parce que les deux dépassements par rapport à la matière, c'est l'aspect de la connaissance de la pensée. Cogito. Un matérialiste ne peut pas dire cogito. S'il le dit, il est pincé. Tout de suite. Et puis l'amour. L'amour d'amitié. Ce sont les deux dépassements. Vous voyez, c'est très curieux. Ce qu'il y a d'universel et ce qu'il y a de plus singulier. C'est les deux aspects par où je peux montrer que tout n'est pas matière. Il y a quelque chose d'autre que je constate dans ma conscience de mes opérations. Ça, c'est très très important d'y réfléchir. Faut pas le répéter, faut le découvrir soi-même. Vous découvrez soi-même ce dépassement. Alors là, voyez, les œuvres d'art peuvent aider beaucoup. La connaissance symbolique peut aider beaucoup. Ça se ramène toujours à une signification universelle. Tout le temps. Ou à un amour réciproque d'un don personnel, individuel. L'amour d'amitié. Deuxième constatation. Cette vie intellectuelle m'apparaît comme quasi infini. Pas de limite, si ce n'est ma fatigue. Vous savez, vous pouvez travailler intellectuellement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous vous arrêtez le soir, vous vous dites, je commence à être fatigué. Ou vous arrêtez le soir, on m'a demandé de m'arrêter. Obéissance. Oui, c'est l'ordre affectif. Mais vous savez que certains jours, vous ne pouvez plus. Vous commencez à patiner, c'est-à-dire à déraper. Vous n'arrivez plus à saisir. La vie, cette vie intellectuelle apparaît comme sans limite. Du côté de son extension. Regardez le nombre de connaissances scientifiques, dites scientifiques. C'est fou. persuadé depuis. C'est intéressant de faire ça. L'inventaire de toutes les sciences, reconnues comme telles, qui sont des sciences quelquefois très embryonnaires, mais qui sont une recherche. Et toutes impliquent l'universel. Toujours. C'est ici. Donc, du côté de l'extension et du côté de l'intensité, si on travaille sérieusement, on sait qu'on peut progresser indéfiniment. Et vous progresserez indéfiniment en philosophie, en mathématiques. Vous pouvez progresser indéfiniment, en profondeur, en intensité, pas seulement en extension. Et la connaissance analogique le montre d'une façon évidente, puisque c'est une connaissance qui, de fait, est qualitative. Et la qualité, vous ne l'épuisez jamais. C'est le propre de la qualité, vous ne l'épuisez jamais. Vous ne pouvez pas l'épuiser, c'est impossible. De ces connaissances scientifiques, je m'aperçois vite que je peux ramener toute cette extension de connaissances scientifiques à quelques types de connaissances. Le langage l'indique, du reste. Vous voyez, il faut bien secouer tout ça. Et faites-vous-même ce petit inventaire, si vous avez le temps. Ce sera intéressant de mettre dans le fond de la salle mais toutes les connaissances scientifiques reconnues aujourd'hui. Par où vous pouvez devenir un spécialiste. Apprenez les sciences les moins connues pour devenir un spécialiste. C'est plus vite fait. Votre carte de visite, vous mettez tout de suite la spécialité. Vous avez un diplôme dans cette science complètement inconnue que vous seul connaissez grâce à une autre personne qu'il connaît. Et ça transmet comme ça, individuellement. C'est très curieux, mais c'est intéressant de voir ça et que la connaissance scientifique se spécialise de plus en plus. C'est propre d'une connaissance scientifique, elle se spécialise. Elle se divise. C'est très curieux. Alors que la philosophie, non. Depuis Aristote jusqu'à nos jours, on a la même structure. Si on veut prendre une philosophie réaliste, elle ne se spécialise pas. Pourquoi ? Parce que c'est l'homme qu'on regarde. Et de l'autre côté, c'est des connaissances liées au point de vue sensible, liées au point de vue imaginatif. Donc, une fois que j'ai fait ce petit inventaire, je m'aperçois assez vite, et le langage m'aide là. Le langage est un signe de ma pensée. Puisque le langage est un signe de ma pensée, je regarde le langage. Qu'est-ce que je vois dans le langage ? Je vois que, de fait, le jugement joue un rôle capital. Les propositions qu'il y a de la lumière dans notre monde physique, il y a, c'est un jugement très important, ceci est. Pierre est intelligent. Pierre travaille. jugement grec, jugement kinei, cerné, le jugement qui implique une addition. Ça, je constate, tout le monde le reconnaît. Tous les philosophes reconnaissent qu'il y a un jugement. Des jugements affirmatifs, des jugements négatifs, des jugements hypothétiques, et ainsi de suite. Le jugement des modalités très très nombreuses. On y reviendra. Et puis, il y a des raisonnements.
N'est pas la synthèse de la
négation. Il est plutôt archaïque. Je ne sais pas s'il faut affirmer ou nier une hypothèse. Je regarde le possible. C'est possible, c'est possible. Tandis que dans l'affirmation négation, je tranche. L'immense avantage du jugement hypothétique, c'est qu'on est d'accord avec tout le monde. Ah, vous dites que oui, ah, très bien, mais ça peut être aussi non. Ça arrange tout ça. Dans une discussion, prenez un peu de recul. C'est comme quand on a peur de s'engager, on prend du recul. On prend du recul. On reste dans l'hypothèse. Et c'est quelquefois dangereux de rester indéfiniment dans l'hypothèse, parce qu'on fait comme l'âne de Buridan. Il n'a jamais opté pour la droite ou pour la gauche, parce que les deux bottes de foin étaient semblables. Pas identiques, mais semblables. Alors, il en est mort. Le jugement hypothétique a cet avantage, c'est qu'on prend du recul. On s'engage pas. On s'engage pas. Alors on paraît très intelligent. Dans le monde d'aujourd'hui, si vous voulez paraître intelligent, je vous donne la recette. Si vous voulez paraître intelligent, ne jugez jamais affirmativement ou négativement. Dites, c'est possible, je suis en recherche. On est en recherche. Donc tout est possible. Donc vous êtes intelligent, puisque tout est possible. Vous êtes comme Dieu. Tout est possible. L'inconvénient, c'est que vous en crevez. Ça, c'est rien. Parce qu'on doit opter. On doit affirmer. La vie de l'intelligence implique ça. Parce que, avec le possible, vous ne rejoignez jamais le réel. Jamais. Vous restez dans le possible. Le volcan. C'est merveilleux, c'est étonnant, c'est ouvert à l'infini. Mais quand on parle de l'horizon, ça provient de ça, mais l'horizon remplace l'objet. Et l'horizon, c'est tout ce qui est possible. Ça, c'est très à la mode. C'est très très à la mode. Alors, si on faisait à la mode, on se fait comme ça. Va n'importe où. Ça n'a aucune espèce d'importance. Le tout, c'est d'avancer. À droite, à gauche, n'importe où. En bas, en haut. Le possible. C'est très très curieux et c'est très intéressant du reste. On pourra se demander d'où ça vient ça. D'où ça vient? Est-ce que c'est la peur? On s'engage plus. Alors, je laisse le côté jugement hypothétique, parce que celui-là, c'est un jugement qui reste très imparfait. Et qui convient à tous. C'est l'affirmation et la négation qui tranche. Et vous direz constamment, oh, celui-là, jeune coq, il tranche tout le temps. Il croit tout savoir. Il affirme tout le temps. Oui, il nie tout le temps. Ah, oh, celui-là est intelligent. Il ouvre des horizons. Il ouvre des horizons. C'est-à-dire qu'il ne conclut jamais rien. Alors il ouvre des horizons. Mais l'horizon, tout de suite. Et on dira tout de suite ça. C'est très très curieux dans le langage même. Alors, le jugement n'apparaît pas comme premier puisqu'il y a la dualité. Mais dans le langage, on voit bien que le langage a sa signification avant le jugement. Je peux parler de blanc. Blanc a une signification. Je peux parler de lumière. Et ainsi de suite. Tous les mots ont leur signification. Et ils sont indépendants du langage, indépendants du jugement. Donc, la signification universelle qui a été le signe pour montrer qu'il y avait quelque chose de vital, tout à fait particulier, ne s'explique ni par le jugement, ni par le raisonnement, encore moins. Le jugement présuppose quelque chose, la signification. Le raisonnement présuppose des jugements et la signification. Il faut donc découvrir une opération antérieure au jugement et au raisonnement, qui serait une opération qui me mettrait en présence d'une connaissance tout à fait première, qui me fait découvrir la signification. Et c'est ce qu'on appellera l'appréhension. Le palipsis chez Aristote. Je dénote trois structures de ma vie intellectuelle. Et il y en a